RFI, vous écoutez la radio du monde, il est 2h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
Bonsoir. Le Canada répond aux États-Unis en imposant de nouvelles taxes sur les produits américains. Et ce, en représailles des 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium annoncés par Donald Trump. On fait le point en début de journal. C'est dans ce contexte que s'ouvre le G7 ce mercredi au Canada. Au menu des discussions, une potentielle trêve de 30 jours entre l'Ukraine et la Russie. Et Kiev a donné son accord et attend la réponse de Moscou. Dans ce journal également, Rodrigo Duterte a été remis à la Cour pénale internationale. L'ancien président philippin est accusé de crimes contre l'humanité. Un signal fort pour Amnesty International France, vous l'entendrez. Et puis Algérie, section armes spéciales, c'est le nom d'une enquête documentaire qui sort sur la plateforme France TV. Elle révèle l'utilisation d'armes chimiques par l'armée française pendant la guerre d'Algérie entre 1956 et 1962. Le Canada contre-attaque. Ce mercredi entre en vigueur les 25% de droits de douane des États-Unis sur l'acier et l'aluminium venant du monde entier, y compris de ses pays voisins. Eh bien, Ottawa a décidé de répliquer en annonçant à son tour des droits de douane sur certains produits américains. Les précisions d'Abla Junaidi.
Le déclencheur, c'est l'ajout par les États-Unis de 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium, après avoir menacé de les doubler pour le Canada sous le prétexte de garantir la sécurité nationale. Une mesure profondément dévastatrice, selon les industriels canadiens. Elle s'est doublée depuis hier d'une autre annonce par Washington qui fait monter la tension. Les États-Unis vont commencer à appliquer une loi qui ne l'était pas jusqu'ici pour les Canadiens, l'obligation de s'enregistrer auprès des autorités pour un séjour d'au moins un mois pour ceux qui font le voyage pour la première fois. En rétorsion, Ottawa dégaine des taxes supplémentaires sur plus de 20 milliards de dollars de produits américains. Dans le collimateur, des produits en acier, en fonte, des équipements sportifs, des ordinateurs. Les mesures entrent en vigueur dès ce jeudi minuit. Le Canada continue donc de rendre coup pour coup. Avant cela, le pays avait adopté des taxes supplémentaires contre 30 milliards de produits américains à la suite des premières mesures douanières américaines annoncées pour début avril désormais.
La Commission européenne a aussi fait savoir qu'elle allait taxer une série de produits américains, des bateaux au bourbon en passant par les motos. Et ce, à partir du 1er avril, une réplique forte mais proportionnée, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. De son côté, la Chine, premier producteur d'acier au monde, promet une riposte musclée. Les droits de douane, c'est l'expression préférée de Donald Trump. Le président américain est finalement revenu sur sa menace d'imposer 50% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium s'il venait du Canada. Depuis sa prise de fonction fin janvier, Donald Trump souffle le chaud et le froid. Alors, où en est-on, Justine Fontaine? Tour d'horizon d'un mois et demi de va-et-vient dans la guerre commerciale lancée par le président américain.
Acte 1, début février, Donald Trump met pour la première fois ses menaces à exécution. C'est Pékin qui est visé, avec 10% de droits de douane sur tous les produits chinois. La Maison-Blanche double la mise un mois plus tard. Plusieurs fois, le président américain menace l'Europe, mais c'est avec ses voisins et alliés historiques, le Canada et le Mexique, qu'il a le plus varié. La semaine dernière, le 4 mars, après un long chantage, il impose 25% de droits de douane sur tout ce qui vient de ces deux pays. Puis en 48 heures, il concède une série d'exceptions, de reports ou encore de réductions temporaires pour un mois sur de très nombreux produits dont les voitures. Dernier round à ce stade, 25% sur l'acier et l'aluminium du monde entier à partir de ce mercredi. Reste toute une liste de menaces en suspens. La principale, celle d'imposer à partir du 2 avril des droits de douane réciproques, miroir de ceux appliqués à ce jour par tous ses partenaires commerciaux à travers le monde.
Les droits de douane, dossier brûlant du G7 qui a lieu à partir de ce mercredi au Canada. Au menu des discussions également, le projet de cessez-le-feu temporaire en Ukraine. Les États-Unis et Kiev proposent une trêve de 30 jours à la Russie. Les négociateurs américains sont en route pour convaincre Vladimir Poutine. Pendant ce temps, sur le front, le président russe s'est rendu dans la région de Koursk pour voir ses troupes. C'est la première visite de Vladimir Poutine dans cette région depuis l'incursion lancée en août dernier par l'Ukraine. Moscou a revendiqué ce mercredi la prise de 5 localités à Koursk et dit avoir fait 430 prisonniers ukrainiens.
RFI, la radio du monde.
Au moins 1383 civils tués depuis jeudi dernier en Syrie. C'est le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme par ces personnes tuées par les forces de sécurité syriennes et ses alliés dans la région de Latakia, bastion alaouite du président déchu Bachar al-Assad. La France n'acceptera pas de nouvelles levées de sanctions contre la Syrie si les exactions restent impunies. Et c'est ce qu'indique le ministre délégué chargé de la francophonie. Rodrigo Duterte a été remis à la Cour pénale internationale. L'ancien président philippin a été arrêté à Manille suite à un mandat de la CPI pour des crimes contre l'humanité. Et ce, lors de sa guerre contre la drogue lorsqu'il était au pouvoir entre 2016 et 2022. C'est le premier ex-chef d'État asiatique à être inculpé par la Cour pénale internationale. Pour Émeric Alluin, chargé de plaidoyer à Amnesty International France, c'est un signal très fort.
C'est un événement inédit et qui en soi, en lui-même, peut paraître banal, mais qui ne l'est pas du tout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui. On a aujourd'hui une justice pénale internationale qui est sans cesse remise en cause. Les États qui ont conçu cette Cour pénale internationale ne cessent de la critiquer, de la remettre en cause. Et là, pourtant, on le voit, quand les États sont de bonne volonté, ça fonctionne. C'est un formidable message pour le fonctionnement de la justice pénale internationale. C'est un message formidable pour les victimes, qui sont souvent les parents pauvres, qui sont souvent oubliés. Non seulement elles ont perdu des proches, mais en plus, on leur interdit l'accès à la justice parce que les plus hauts responsables y échappent. Et c'est le principe de la CPI que de poursuivre les plus hauts responsables. Donc le message qui est envoyé, regardez, là concrètement il y a les Philippines, mais demain ça peut être éventuellement la Russie, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc c'est un signal important envoyé à tous les plus hauts responsables. Donc il faut faire confiance et surtout faire confiance au caractère universel de cette justice.
Émeric Alluin, chargé de plaidoyer à Amnesty International France, des propos recueillis par Anne Verdaguer. L'Angola annonce ce mercredi dans un communiqué de la présidence que des négociations de paix directe auront lieu mardi 18 mars à Luanda entre les délégations de la RDC et du M23. Les présidents congolais et angolais se sont rencontrés à Luanda ce mardi. La présidence congolaise dit avoir bien reçu son invitation mais ne confirme pas sa participation. Le Soudan du Sud aux portes de la guerre, c'est l'alerte lancée par l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement qui regroupe 7 pays de l'Afrique de l'Est. Depuis son indépendance du Soudan en 2011, le pays est en proie à des violences qui l'empêchent de se remettre de la guerre civile qui a opposé le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Un conflit qui a fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018. Et ces dernières années, l'accord de paix a été menacé par de nouveaux affrontements dans le nord-est du pays. Un tout autre sujet désormais, une enquête documentaire diffusée à partir de ce mercredi sur la plateforme France TV révèle l'utilisation d'armes chimiques par l'armée française pendant la guerre d'Algérie entre 1956 et 1962. Intitulé « Algérie section armes spéciales », ce documentaire lève un des derniers tabous de la guerre d'Algérie. Il est signé Claire Billet qui s'est appuyée sur des recherches de l'historien Christophe Laffey. Isabelle Chenu.
Le documentaire « Algérie section armes spéciales » aurait dû être diffusé sur France 5 en fin de semaine. Sa déprogrammation, officiellement pour raison d'actualité plus chaude, suivie de sa mise à disposition gratuite dès ce mercredi sur la plateforme France.tv, lui a donné une grande publicité. Car en 52 minutes, et pour la première fois, est révélée l'utilisation de gaz toxiques à grande échelle par l'armée française dans les grottes qui servaient de repère aux combattants nationalistes algériens. La réalisatrice Claire Billet s'est appuyée sur des recherches menées par l'historien Christophe Lafaye à partir d'archives, mais aussi de témoignages d'anciens soldats français et algériens. Dès 1956, une section appelée « Armes spéciales » dédiée aux gaz toxiques utilise des cocktails mortels en milieu confiné. Objectif, déloger les combattants de l'armée de libération nationale, principalement dans les montagnes de Kabylie et des Aurès. 63 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le travail des historiens et des chercheurs continue péniblement de lever des zones d'ombre. Une grande partie des archives françaises sur ce dossier reste encore inaccessible et le contexte actuel de crise diplomatique franco-algérienne n'aide pas à travailler sereinement sur la mémoire.
Et puis du football avant de fermer ce journal, soirée de Ligue des Champions, 8e de finale retour, le Real Madrid a gagné au tir au but contre l'Atlético Madrid. C'est le défenseur Antonio Rüdiger qui a délivré les Madrilènes en inscrivant le dernier but, 4-2 au total. Et déception pour Lille qui s'effondre face à Dortmund, défaite 2-1. Les Allemands sont qualifiés tout comme Arsenal qui passe malgré un match nul 2-2 contre le PSV Eindhoven. Un autre club anglais se qualifie, c'est Aston Villa contre Bruges.